Alors ce matin, je vais vous lire un passage dans Matthieu au chapitre 5. Ce matin, je désire vous parler de ce que j'appellerais pratiquer la justice invisible du royaume de Dieu. Voilà, ça c'est ma taille. Et dans Matthieu au chapitre 5, au verset 20, Jésus a une parole qui pour moi est très sévère. Il est sur la montagne, c'est le sermon sur la montagne, il s'adresse à une foule, et ça fait partie des enseignements. Et voici ce qu'il va dire, il va lancer cette parole. « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, non, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et d'abord, j'aimerais vous raconter qu'est-ce que la justice des scribes et des pharisiens. Les pharisiens, c'était l'élite religieuse de l'époque de Jésus. Et déjà même, donc pour eux, ils avaient cherché comment faire pour être au meilleur service de Dieu. Comment faire pour vraiment ne pas décevoir Dieu, être le plus plaisant pour Dieu. Et c'est ce qui fait qu'ils se sont mis à pratiquer une justice, religieuse, je dirais, vraiment rigoureuse. Alors, ça veut dire que c'était des gens de prière. C'était des gens aussi de discipline, d'étude de la parole de Dieu. C'était des gens très, très rigoureux dans leur vie, de sanctification. Dans le combat contre le péché était très, très fort dans leur vie. Et vous avez Jésus qui arrive, qui est notre Seigneur, et qui dit, si vous n'êtes pas mieux qu'eux, vous ne rentrerez pas dans le royaume des cieux. Quel gifle dans un sens. Je pourrais dire, c'est totalement décourageant. C'était d'ailleurs la réaction des apôtres, quand les apôtres ont dit... quand Jésus, en fait, a vu le jeune homme riche qui dit « Qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? » Et Jésus lui a dit « Ben, pratique les commandements. » Et le jeune homme riche a dit « Je les ai toutes faites! » Et j'imagine tous les apôtres qui devaient se dire « Ouais, on n'est pas à la cheville de ce gars-là. » Tu sais, c'était des pêcheurs qui vont à la pêche, là, et qui étaient certainement des pêcheurs aussi. C'était des... Il y avait c'était un publicain qui était là, un zélote. Le zélote, c'était un partisan politique. Là, tu sais, il devait être très violent, très rigoureux. Si vous rencontrez quelqu'un qui est un partisan en politique, souvent ils peuvent vouloir être convaincants et être agressifs dans leur argumentaire. Et donc, il y a ce jeune homme riche-là qui, manifestement, ça va bien dans sa vie, il est riche. Et en plus, il pratique tous les commandements. Puis Jésus lui dit, bon, ben, si tu veux faire quelque chose d'autre, vends tout ce que tu as et suis-moi. Et le jeune homme riche qui s'en va, et Jésus qui déclare, c'est plus dur à un homme riche de rentrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de rentrer dans le chat d'une aiguille, dans le trou d'une aiguille. Et j'imagine quand même le découragement et les apôtres vont même le dire, si c'est comme ça, qui peut être sauvé? Et c'est pour ça que je voulais parler de la justice invisible, de pratiquer la justice invisible, parce que le jeune homme riche, c'était visible que ça allait bien dans sa vie. Les pharisiens, c'était visible. Qui servait Dieu. Est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que les pharisiens faisaient et qui était visible? Ils jeûnaient. Mais est-ce que ça paraît, moi, si je ne mange pas, tu vas-tu le voir? Une chose à la fois, s'il te plaît. Mais Jean-François nous dit, peut-être pour ceux qui sont derrière qui n'entendent pas, il jeûnait et il faisait voir qu'il jeûnait. Hein? Si des fois vous avez sauté un repas, par accident, supposons, vous sautez un repas, souvent on commence à se sentir faible peut-être, puis là, on, le visage suit les troubles de l'estomac, puis là, tu sais, t'es comme ça. Alors, les pharisiens jeûnaient visiblement, comme Jean-François le dit, de cette manière-là. Jean-François a soufflé une deuxième réponse, mais je vais demander à quelqu'un d'autre de la dire. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que les pharisiens faisaient visiblement? Ils priaient au coin des rues. Et donc, justement, ils se mettaient dehors pour prier, et donc tout le monde pouvait les voir prier. Et donc, vous saviez qu'eux priaient. Je sais qu'aujourd'hui, ça peut nous paraître étrange, hein, de cette idée de prier au coin des rues, mais j'étais au Niger, dans un pays musulman, et ça fait partie des coutumes de prier, surtout dehors, en public. Les gens vont même sortir de leur maison, de leur cour, pour prier dehors. Et tu les vois prier. Et même, ça devenait une accusation contre les chrétiens en disant, vous, les chrétiens, vous ne priez pas. Parce qu'ils ne voient pas les chrétiens prier. Et aussi parce qu'ils ont, dans le cas des musulmans, ils ont des heures précises. Donc, tu sais, à telle heure, tu vas voir qui prie, qui prie pas. Alors que pour les chrétiens, quelles sont nos heures pour prier? Quelqu'un sait les heures pour prier pour les chrétiens? En tout temps, n'est-ce pas? Hein, dans Thessaloniciens, l'apôtre Paul nous dit « prier sans cesse ». Et donc, c'est normal qu'on ne voit pas un chrétien prier nécessairement. Ce n'est pas facile de voir un chrétien prier. Mais ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que faisaient les pharisiens. C'était comme ça, les pharisiens. Ils sortaient dehors, ils allaient dans les lieux publics et ils priaient. Et donc, c'était visible. Donc, tu ne te posais pas de questions. Tu te dis « est-ce que lui, il prie? Est-ce que lui, il ne prie pas? Je ne sais pas. » Lui, tu le vois, je l'ai vu prier, il a bloqué la rue. Il y a même, c'était une chose qui arrive dans les pays musulmans. Il est arrivé ce scandale, si vous vous rappelez, en France, c'est arrivé que les musulmans sont sortis, ils ont bloqué la rue, ils ont envahi la rue pour prier. Alors, ça bloque la circulation. Et ça arrivait couramment au Niger. J'arrivais dans un marché, et là, embouteillage, on ne voit pas qu'est-ce qui se passe, on regarde l'heure, c'est la prière, il y a des gens qui prient dans la rue. Donc, tu peux le voir, et ça crée une pression sociale en même temps, parce que tu dis, je veux pas que les autres pensent que je prie pas, donc je vais aller moi aussi prier dans la rue. C'est ce qui se passait dans le temps des pharisiens. Et c'est ce que Jésus vient en même temps frapper, en disant, si vous êtes juste comme les pharisiens, c'est pas encore suffisant. J'aimerais dire qu'on est tenté, malgré tout, par le visible. Si on voit quelque chose, c'est vraiment quand même tentant. C'est vraiment quand même beaucoup interpellant. Et vraiment, même l'ennemi, le diable, agit comme ça. Et je dois dire que ce qui m'a inspiré, c'est justement Michel, avec les partages, comme il l'a posé, vous le voyez sur votre dépliant là, ce matin, avec les paraboles du royaume. Le levain dans le pain, qui voit le levain dans le pain? On voit que déjà Jésus, dans ses paraboles, il nous parle de des choses invisibles. Le levain dans le pain, qui se soucie du levain dans le pain, à part le boulanger? T'sais, on pense pas à ça. Mais enlever le levain dans le pain. Bon, on va manger des biscuits soda, peut-être, là, mais ou des galettes. Il y avait une boulangerie au Niger qui faisait un pain horrible. Mais c'était en dehors de la capitale, c'était la seule boulangerie. Donc, à l'occasion, si on voulait un pain, c'était la seule place qu'on pouvait aller. Et le pain était vraiment comme toujours un peu écrasé, c'était une baguette, toujours un peu écrasé et très effeuilleté. Alors, il y en a peut-être qui connaissent la boulangerie, là, mais moi, je ne connais pas beaucoup, mais on me disait, c'est un problème de levure. C'est-à-dire que le levain a brûlé. Le levain n'a pas été efficace. Ce qui faisait que le pain était désagréable, il était sec et écrasé. Puis c'était banal de me dire, je me suis jamais soucié du levain, jusqu'à temps qu'on m'apprenne que le levain fait un problème. Quand il n'y en a pas, le pain est désagréable. Et donc, on voit que Jésus nous parle que le royaume agit aussi dans des choses, d'une façon invisible. Et la même chose, si vous voyez sur votre dépliant, le grain de moutarde, qui est insignifiant, qui peut être jeté. Si on voit ça, on peut se dire, qu'est-ce que ce grain-là Et on pourrait dire même le grain de moutarde parce que c'est le plus petit d'entre tous, mais n'importe quelle semence, on pourrait se dire, ah, il me semble qu'une noix de coco, ça c'est un fruit, tu sais. Ça c'est une graine à planter, tu sais. Et mais finalement, si vous voulez vraiment quelque chose de nutritif, peut-être qu'il faut de la variété et quelque chose qu'il faut aller chercher dans des choses plus petites qui vont nous produire un fruit vraiment impressionnant. Bien, Jésus, quand il condamne les pharisiens comme ça, il nous invite dans cette dimension peu visible, dans cette dimension, j'allais dire, le banal ou insoupçonné de nos actions, de nos relations, de nos contacts, de nos prières, de toutes ces choses qui ne se voient pas ou qui se remarquent pas beaucoup. Mais je reviens aux tentations du diable. Parce que le diable, il vient et il nous tente de façon subtile, mais de façon visible. Je ne dis pas que la tentation, elle est visible, comme s'il nous apparaît, puis là, c'est pas ce que je veux dire. Mais il nous pique sur des choses sensibles. Et j'aimerais vous lire, ce sont des passages qui sont souvent très connus, mais je peux qu'on prenne le temps, c'est la parole de Dieu. Matthieu 4. On va écouter qu'est-ce que le diable dit à Jésus. Ça nous dit que on se rappelle que Jésus est allé au désert, poussé là par le Saint-Esprit, après son baptême. Et juste à son baptême, qu'est-ce qu'il a appris, qu'est-ce qu'il a entendu, qu'est-ce qui était clair et visible? Exactement, la parole de Dieu, de Dieu le Père qui se révèle, qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et dans certains passages, on nous dit que c'est Jésus qui entend la voix, dans un autre évangile, quoi, c'est Jean-Baptiste qui l'entend. Et la foule, eux, ils ont entendu un coup de tonnerre. Donc, c'est pas une déclaration dans un haut-parleur.
Attention, attention, voici le Fils de Dieu.
C'est rien de clair et évident comme ça. Mais dans le cœur de Jésus et Jean-Baptiste, qui est prophète, ils entendent, voilà, hey, ça c'est la révélation. Les autres, ils entendent un coup de tonnerre, ils disent, ah, il s'est passé quelque chose. Là, je me demande, c'est quoi? Et ça semblait naturel. Et après ça, il s'en va au désert. Et voici, Saint-Esprit l'amène au désert. Et voici le diable qui vient voir Jésus. Et moi, je vois l'image de, vous savez, dans Job, hein, le diable, il venait faire un tour comme ça auprès de Dieu, le Père. Il dit, hey! Et là, c'est, le diable, il vient comme ça. Hein, on se dit, hey, c'est en présence de Dieu, c'est auprès de Jésus. Hop, paf, le diable se présente. Voilà, je suis là. Donc, soyez pas surpris si des fois vous dites, ah, je suis tenté par le diable, que je suis mauvais. Il est allé voir Jésus. Mais voici qu'est-ce qu'il dit à Jésus. Je sais qu'on pourrait avoir tendance à s'imaginer une voix tu sais, vraiment claire, là, comme ça, le diable qui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir du pain. Mais je pense que le diable était plus comme ça. Tu sais, hey, si tu es le Fils de Dieu, là, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Et le diable, il vient parler comme ça de façon subtile, de façon juste logique. Hey, c'est vrai. J'ai faim. Il y a des roches, là. Si je suis le Fils de Dieu, pourquoi pas les transformer en pain? Et heureusement, le Seigneur lui répond de façon biblique même, il dit, il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. Alors le diable l'amène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. La première chose, je vais terminer le passage, je vais revenir après. Et Jésus lui dit, il est écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Le diable l'amène encore sur une très haute montagne et lui montre tous les royaumes du monde avec leur gloire. Et il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras, et c'est lui seul que tu rendras un culte. » Alors le diable le laisse, et voici que les anges s'approchèrent et le servaient. Donc il y a trois tentations que le diable donne à Jésus. Et ce que je voulais souligner, c'est que le diable donne trois tentations sur des choses qui sont visibles, qui sont manifestes, qui sont aussi glorieuses. D'abord, au point de vue visible, c'est le pain qui se transforme en la roche qui se transforme en pain, qui va satisfaire aussi son besoin. Mais quelle, hein, ça serait pas quelle en même temps manifestation de puissance. Si tu regardes une roche, imaginez, hein, je sais pas si vous avez déjà eu faim, vous avez déjà regardé quelque chose, ah, ça serait tellement fascinant, tu sais. Je crois que c'était surtout avant d'être chrétien que je rêvais à être magicien puis à faire des trucs comme ça, tu sais. Puis il me semble que ça serait fantastique, tu sais, tu transformes des objets en n'importe quoi. Et Jésus refuse. Ensuite, il est amené sur le toit du temple, puis là, il dit « saute en bas ». Puis là, on pourrait dire « c'est juste entre le diable et Jésus », mais s'il est sur le toit du temple, il y a toujours du monde, il y a du monde 24 heures sur 24 au temple, ça bouge tout le temps. Toujours quelque chose qui se passe. C'est s'il saute en bas, il y a quelqu'un qui va le voir. C'est sûr que s'il est là en haut, de façon miraculeuse, peut-être personne ne le remarque. Tu sais, parce que c'est ça, tout le monde est occupé dans ses affaires, fait qu'il n'est pas en train de crier. Tu sais, c'est là, personne ne le remarque. Mais là, s'il saute en bas, tout le monde va le voir. Et si les anges l'attrapent, hey, imaginez, là, c'est consécration. Là, c'est officiel. Hey, voici le Fils de Dieu. Jésus refuse. Avec la parole de Dieu, toujours. Mais la troisième tentation, ça serait pas fantastique, ça? Tous les royaumes te sont livrés d'un coup. Voilà Jésus, roi du monde, d'un seul coup. Tous les problèmes peuvent être réglés d'un coup. Déjà, il peut transformer les roches en pain. Hein? Le monde entier mange. Il peut flotter sur les airs parce que les anges l'attrapent. Et il a tous les royaumes. Et Jésus refuse. Mais sur quoi est-ce que le diable l'attaquait particulièrement? Il disait, hey, c'était le Fils de Dieu, là. Mm-hmm. Jésus était attaqué sur quelque chose qu'il savait déjà. Parce que c'était au baptême qu'il l'avait entendu, ça avait été déclaré, tu es le Fils de Dieu, voici mon Fils de Dieu. Et le diable, il vient comme ça. Et de la même façon, je suis certain, quand que les pharisiens allaient prier au coin des rues, le diable devait venir tenter les apôtres comme ça, en disant, « Hey, si t'étais vraiment au service de Dieu, là, tu irais prier toi aussi? Hey, si t'étais vraiment au service de Dieu, si t'étais vraiment racheté par le Seigneur, tu jeûnerais puis tu le ferais savoir? » Et souvent, le diable vient justement nous attaquer de cette façon-là. Il dit, « Hey, montre donc ta justice. » Fais-la resplendir. Va faire du militantisme, par exemple. Et un jour, Jésus, là, c'est pas l'ennemi qui le fait. Justement, Jésus fait un miracle incroyable. J'ai oublié de noter le passage. Mais Jésus va justement multiplier des pains. Ce que le diable lui avait tenté, Jésus va quand même le faire dans le temps de Dieu, de la manière de Dieu. Et qu'est-ce que ça produit? La foule veut venir le choisir puis l'élire comme un roi. Et Jésus, il s'enfuit au désert. Il s'en va dans un lieu désert plutôt, et il s'en va prier. Et même quand le lendemain matin, qu'est-ce qu'il va dire à ses apôtres qui disent, « Hey, la foule attend là! » Il dit, « Ah, on va aller dans le prochain village. » Et il refuse, on pourrait dire, l'engagement même politique. Alors que visiblement, ça aurait pu être une transformation incroyable. Hein? Souvent, est-ce que peut-être vous êtes déjà entendu ça, ou quelqu'un vous disait, s'il m'apparaîtrait devant moi, là je croirais. Et le miracle, la chose fascinante, c'est qu'il ne s'est pas manifesté visiblement devant nous, mais on est tous là, en train de croire en lui. On est tous venus ce matin pour le célébrer. Et ça fait partie, justement, de pratiquer cette justice invisible, de croire sans avoir vu. et de poser des gestes qui ne semblent pas avoir des répercussions internationales, des répercussions flamboyantes, mais qui restent toujours attachées au royaume de Dieu, à Jésus. En passant, quand je lisais Les Tentations du diable, j'ai réalisé, un livre m'avait aussi mis la puce à l'oreille, je dois dire. Et dans le jardin d'Éden, quelle est la tentation que le diable avait dit à Ève? Quand il l'a vu, il a dit, « Hey, si tu manges du fruit, là, tu vas être comme Dieu. » Mais justement, qu'est-ce que Dieu avait dit juste avant? Hey, créons l'homme à notre image. Et hommes et femmes, ils furent créés à leur image. Donc, à quelque part, Adam et Ève étaient déjà, en fait, à l'image de Dieu. Mais le diable est venu les attaquer aussi sur leur identité. Et je ne serais pas surpris. Donc, et en fait, si vous constatez les doutes qu'on a souvent dans nos cœurs, les doutes que vous avez dans vos cœurs, sont sur des choses que vous savez déjà, sur des choses qui sont déjà vraies. Vous êtes déjà rachetés. Si vous avez accepté Jésus encore justement dans votre cœur, et encore plus, je dirais, vous avez reçu le baptême, vous êtes rachetés. C'est-à-dire que c'est des événements qui vous affirment, qui vous assurent. Et donc, il n'y a plus de place. Ça, c'est vrai que c'est devenu invisible, c'est vrai que ça paraît plus nécessairement. Mais ça appartient déjà. Et le diable vient jeter le doute là-dessus. Maintenant, un scribe, je crois. Excusez-moi encore, j'ai oublié de noter ce verset-là. Mais un scribe, il lui demandait, c'est quoi le plus grand des commandements? Et encore là, on pourrait s'attendre à trouvons un commandement qui est visible, hein? Qui est grandiose, qui est spectaculaire. Et Jésus nous donne un commandement, aime Dieu et aime ton prochain. Et encore là, ça fait partie de quelque chose qui n'est pas palpable, qui n'est pas visible, que je ne peux pas vous prouver que je suis en train de le faire. Mais je sais que nous sommes en train de le faire. Parce que l'exemple, qu'hier, il y a eu des hommes qui sont allés déménager des meubles. Ils sont allés faire quelque chose. Je suis certain qu'ils étaient fatigués, ils sont éreintés. Ils pourraient dire, ce qui est visible ce matin, c'est les douleurs, les courbatures, la fatigue. Peut-être même que pendant qu'ils déplaçaient les meubles, ils pensaient à de la colère ou à de la frustration ou à d'autres choses pour une raison ou une autre. Quand tu essaies de sortir un meuble, tu essaies de sortir d'un coin, puis ça passe pas ou ça passe mal ou que tu n'es pas fâché contre quelqu'un, mais l'adrénaline monte quand même. Donc l'amour, on pourrait dire, il me semble que c'était pas nécessairement visible. Quand les femmes se réunissent pour cuisiner, on pourrait dire, ce n'est pas une action, un service de Dieu visible comme tel. Peut-être qu'il y a même je ne sais pas si vous avez coupé des oignons la dernière fois, mais moi je sais que je serais très impatient s'il fallait que je coupe des oignons. Heureusement, je sais que mon épouse, qui n'est pas là, est dans les classes probablement, elle a des yeux de béton, je ne sais pas, elle a des écailles sur les yeux. Nous, une fois avec les enfants, on était dans le salon en train de pleurer, puis elle était en train de, qu'est-ce qu'il y a? Mais si moi j'étais là à cuisiner, à couper des oignons, je m'impatienterais, Je dirais, OK, on va mettre l'amour du prochain de côté, ou on va changer la recette, ou... Non. Donc, ça paraît pas. Il y a plusieurs petites choses qu'on fait comme ça, qu'on peut se dire, il me semble que c'est insignifiant. Il me semble que ça paraît pas. Et pourtant, on est en train de témoigner. Tout comme cette graine de moutarde qui est plantée dans la terre, tout comme le levain qui est dans le pain, et tout comme quand Michel l'a prêché, j'avais beaucoup aimé, comme cette crèche qui est là dans nos cœurs. C'est vrai, peut-être qu'à l'hôtel de ville, il l'a enlevé. On a perdu notre manifestation publique, politique, mais on la porte dans nos cœurs. Et comme ça, Jésus rayonne et il est même mobile. Il est partout. Et c'est de cette manière-là que, justement, on peut pratiquer la justice qui n'est pas celle des pharisiens et des scribes dans l'invisible, dans ce qui semble insignifiant. C'est pour ça que je vous ai fait faire une pratique tout à l'heure. Souriez et dites bonjour. Dites encore bonjour à votre voisin. Merci. Ah, quelqu'un qui me dit bonjour. Mais tantôt, oui, merci. Alors, un jour, il y a Naaman, il y a un général d'armée qui est malade, qui a la lèpre, et qui se dit, ben en fait, il vit dans la honte tout le temps, parce que lui, c'est visible, même s'il avait été juif, tu sais, ça veut dire vraiment, hey, non seulement il est lépreux, mais il est rejeté. Donc lui, c'est visible, imaginez, tu es général d'armée, mais tu peux jamais, tu dois toujours soit porter un voile, il doit toujours rester à plusieurs centaines de pieds de ses soldats. Il est toujours loin. Et alors, il y a une esclave, une jeune fille esclave. C'est dans nos traditions, des fois, c'est écrit gentiment une serviteur, une servante, mais c'est une esclave, dans 2 Rois, au chapitre 5. Et elle lui dit, ah, il y a un prophète en Israël, là, si tu vas le voir, là, lui, il pourrait te guérir. Et c'est une esclave, là, c'est pas un évangéliste. Ce n'est pas un roi, ce n'est pas un prophète même qui dit ça. C'est une jeune fille, peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans, qui fait le ménage ou qui est la nounou des bébés, je ne sais pas. Et qui dit, hey, nous autres, on a un prophète, là, si tu allais le voir, il pourrait te guérir. Alors lui, il prépare son cortège, il dit, ça y est, on va y aller, on va faire un effort d'humiliation, on va aller voir le peuple ennemi, on va aller voir leur prophète qui s'appelle Élisée. Et là, il arrive à la porte du prophète, un petit autre esclave, mais un autre messager, en fait, ça dit le messager, le serviteur de Élisée qui sort et qui dit, voilà, mon maître, là, il fait dire, va te laver dans le Jourdain 7 fois. Va prendre une douche, va prendre un bain, là, va te laver 7 fois et tu vas être guéri. Et à ce moment-là, vraiment, Naaman, il se met en colère. Et ça le dit spécifiquement, il espérait de voir au moins le prophète sortir, puis faire une invocation de Dieu, tu sais, puis faire quelque chose du feu, des étoiles, des jets d'eau, des lapins qui sortent du chapeau, quelque chose de visible. Mais il voit même pas le prophète. Le prophète, il sait même pas. Peut-être que peut-être qu'il est même pas là. Peut-être qu'il, tu sais, c'est juste un petit bonhomme qui vient. Ah, oh, va te laver 7 fois. Et vraiment, il est sûr, il se moque de moi. Hein? Si c'est l'idée de me laver dans de l'eau, hein, c'est pas l'eau du Gange, le Jourdain, quand même. L'eau du Gange, qui est le fleuve indien qui aurait des vertus miraculeuses. Hein? C'est un fleuve ordinaire. Il y en a plein de fleuves comme ça. Et il s'en va en colère. Et ce sont ses serviteurs à lui, ses assistants qui, pleins de sagesse, qui lui disent, « Hey, on t'aurait demandé quelque chose de difficile. Là. On t'aurait dit, va cueillir la rose qui pousse 5 minutes par jour au sommet du Kilimandjaro, tu l'aurais faite. Hein, » Il aurait demandé n'importe quoi, il l'aurait probablement fait. Quelque chose de visible, quelque chose de spectaculaire, quelque chose de déconcertant. À place de ça, il s'en va, on lui dit d'aller se baigner dans l'eau. Personne ne va même penser qu'il est en train d'être guéri. Tu sais, il s'en va se laver. Tout le monde va se laver dans le fleuve Jourdain. Là. C'est quelque chose de commun. Il dit, mais on te demande quelque chose de facile. Refuse-le pas. Tu vas juste faire une petite affaire. Alors, Naaman, il se laisse convaincre. Il dit, OK, il n'y a rien à perdre. Et il va se laver. 7 fois, puis il en sort guéri. Ça dit qu'il y a même la peau d'un jeune garçon, d'un enfant, toute rose, là, probablement. Et là, encore émerveillé, il revient, il lui dit, il faut que j'aille voir Élisée, il faut que j'aille lui dire, là. Et il retourne pour remercier Élisée, mais là, il veut encore lui aussi faire quelque chose de visible. Il dit, je vais te donner des cadeaux, je vais te donner de l'or et tout. Et Élisée encore, il refuse. Il dit, non, c'est correct. Et Naaman, il dit, maintenant, je reconnais qu'il y a juste Dieu de Dieu, juste le Dieu d'Israël qui est Dieu. Et je vais lui consacrer ma dévotion, ma vie. Mais on était toujours pris dans le visible puis l'invisible. C'est-à-dire le banal, l'insignifiant et le spectaculaire. Et aujourd'hui, je vais vous laisser partir tout à l'heure. Mais vous resterez pour adorer le Seigneur encore après. Mais je vous suggère ça simplement. Un petit défi, une petite tâche, un exercice. Vous devinez lequel? Oui, merci. Je vous suggère d'aller dans les rues, d'aller au travail, d'aller à la maison, surtout peut-être à la maison, parce que c'est souvent difficile à la maison, dans la routine quotidienne, de sourire aux gens et de leur dire bonjour. Bon, par politesse, des fois c'est suffisant de dire bonjour une fois à quelqu'un par jour. Hein. Je sais que ça semble anodin, mais en particulier, je accentue pour les Québécois, parce que j'entends souvent que les Québécois ne regardent pas les gens et ne disent pas bonjour. Alors, c'est un petit effort en particulier que je demande à nous, les Québécois. Toutes les autres nations qui avaient bien été éduquées bien autrement, continuez de le faire. Mais je vous le propose parce que, d'une part, on est en janvier, fin janvier, début février, et c'est difficile de sourire. Et ça semble vraiment banal, commun. Qu'est-ce que sourire? Si on jeûne, si on a appris que les pharisiens, eux, s'amusaient à vraiment montrer qu'ils ne souriaient pas. T'sais? Mais même si on... Souvent, c'est quand on souffre, hein, c'est difficile. T'sais? Quand on a mal, quand on se lève du mauvais pied... Et c'est pas écrit dans la Bible, hein, je pense, je sais pas. Ça dit d'être toujours joyeux, mais ça dit pas souriez toujours. Mais je vous suggère, juste comme un exercice, et je suis convaincu d'une chose, c'est qu'autour de vous, ça va semer des petites graines de moutarde. Hein, juste vos petits bonjours. J'étais à la caisse hier à l'épicerie. Est-ce que c'était... Mais peu importe, c'était dans un magasin. Et je me souviens de la femme... Qui prend mes affaires, je voyais, tu sais, que, bon, c'est pas facile, tu sais, tu vois 300 personnes qui passent avec leur caisse et qui veulent payer quelque chose. Et là, elle prend mes choses et elle me regarde pas parce qu'elle est concentrée sur mes objets que j'achète. Et là, je dis, bonjour, ça va bien? Elle lève la tête, puis là, toute surprise. J'ai vu dans ses yeux vraiment, et sa réaction me surprise aussi, parce que je me suis dit, voyons, j'ai juste dit ça va bien. Et là, j'ai l'impression que si j'avais eu plus d'articles, elle aurait pu me raconter beaucoup plus de choses. Mais, juste un petit sourire, un bonjour, ça a un impact. Dans le futur, on ajoutera d'autres affaires. Vous pourrez faire d'autres choses. Ça, c'est pas un problème. Ça sera à vous d'être sensible aussi et d'être attentif. Parce que le Seigneur, il est pas venu sur la terre pour uniquement sourire et dire bonjour. Mais un premier exercice, une première jetée de levain dans notre vie, dans notre quotidien, ça peut avoir un impact autour de nous. Et ça peut justement avoir un impact spirituel, même. C'est ce qu'on a vu dans... C'est ce que, justement, le diable, il veut pas qu'on croie. Souvent, je sais pas si vous avez déjà eu... Je trouve que c'est un mouvement aussi, c'est pas seulement un mouvement dans notre société du tout au rien. On a l'impression que il faudrait vraiment avoir vraiment le spectaculaire ou finalement rien. Tu sais, je suis mieux d'être bête avec tout le monde que de juste donner un sourire puis dire bonjour. Je suis mieux de me taire et de rester cloîtré chez moi que d'aller voir les gens puis d'être frustré après parce qu'ils m'ont plié ses pieds. je suis mieux d'arrêter de prier que de prier puis de sentir qu'il se passe rien. Je suis mieux d'arrêter de lire ma Bible que de lire ma Bible puis de pas comprendre. Et parfois, on est tenté par, comme je disais, à vouloir chercher quelque chose qui est visible, qui est spectaculaire, qui est sensible, en fait, aurais-je dû dire. Qu'on peut sentir en dedans de nous. Mais le Seigneur, il dit qu'il est là, là où ce que ça paraît pas, là où ce que ça semble pas visible. Vous priez, et je suis certain, peut-être on pourra s'en parler après, s'il y en a qui veulent partager, mais je suis certain qu'on fait des prières, puis on se dit, il me semble que ça ne change rien. Hein? On fait des prières, puis ça n'a pas d'impact. Les gens ne veulent rien comprendre, les gens ne comprennent pas. Mais sans qu'on sache, il s'est passé quelque chose. Ah, c'était la semaine dernière hein, que quelques-uns ont fait des témoignages de leur conversion que c'était passé par l'impact de quelqu'un d'autre, puis que souvent les quelqu'un ne... je pense que c'est toi qui as reçu une Bible dans une voiture, non? Quelqu'un a dit qu'il avait entendu le témoignage par quelqu'un, puis que cette personne-là ne doit même pas savoir qu'il est chrétien. Oui, voilà, tu sais. Et c'était des choses qu'on pourrait dire qui semblent aujourd'hui invisibles, mais qui ont un impact éternel. Alors, je veux vous laisser avec ce petit défi aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, Jésus vous sourit. Il vous dit bonjour aussi. Amen.